Bon, bien bonsoir à tous. Alors, on a vraiment très très peu de temps pour vous convaincre d'un sujet absolument pléthorique. Ça fait 20 ans que je fais ce métier d'analyser les technologies de l'information et de la communication. Je ne suis pas surpris tous les jours. Là, vraiment, on a été surpris. Pour faire le travail qu'on a dû faire, il fallait vraiment que l'on soit surpris. On va essayer de vous faire partager cette surprise au pas de charge, parce que vraiment, pour en donner un maximum en un temps minimum. Donc tout ça a été concentré dans ce livre. Alors Jean-Baptiste Duclic, c'est lui, Christophe, c'est moi, voilà. Alors, Michel Berry l'a dit à l'instant, pour être en forme, élever ses enfants, les élever mieux et surtout avec moins de stress, bien vieillir, trouver l'amour, positiver, maigrir, mais aussi améliorer sa pratique spirituelle, enfin bon, il y a énormément de choses. On se demande quel compartiment de la vie privée, intime, n'est pas aujourd'hui améliorable grâce aux technologies numériques. Alors évidemment, ceci paraît très sociétal, alors qu'en principe, nous devrions parler d'entreprise. Donc on va en parler, mais forcément, ce mouvement étant sociétal, il va rentrer dans l'entreprise, y compris si l'entreprise n'en a pas vraiment envie, comme de plus en plus de choses aujourd'hui. Ça arrive par la société. C'est un bouillonnement créatif absolument exceptionnel. Dans le numérique, aujourd'hui, aux États-Unis, c'est probablement un des segments qui est le plus créatif. Alors, ce sont beaucoup d'applications smartphone, mais il ne faut pas réduire ça à ça. C'est aussi beaucoup de portails, beaucoup de services en ligne, d'objets communicants dans tous les sens, etc., etc. Si on ne prend que le segment des apps, donc des applications smartphone, si on prend que ce qu'on peut voir sur l'App Store, eh bien, il y avait 17 000 applications à mi-2011 qui parlaient de santé, de bien-être. À fin 2012, il y en avait 35 000. Bon, c'est pour vous donner... Évidemment, il y en a qui sont des simples répétitions, des clones, etc. Mais en l'occurrence, pour vous dire un petit peu l'explosion créative. On nous évoque 500 millions, vous avez bien compris, 1,5 milliard de gens qui vont effectivement se connecter de plus en plus à leur smartphone pour faire tout un tas de choses qu'on a déjà évoquées. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est un marché qui est plus solvable que le reste. Sur l'App Store, classiquement, les 3/4 des applications sont gratuites, 1/4 est payant. Dans le domaine santé, bien-être, c'est le contraire. 3/4 sont payants, 1/4 est gratuite. Donc, les gens sont capables de payer un peu, beaucoup passionnément la folie, ça c'est un peu plus compliqué, mais au moins un peu, pour s'occuper d'eux, voire des autres. C'est une kyrielle de nouveaux concepts. Voilà le champ sémantique de ce que nous avons soulevé. Donc, il y a plein de nouveaux concepts, il y en a qui sont un peu plus anciens. On ne va pas passer ça en revue en une demi-heure, mais on va essayer d'en voir quelques-uns.
Alors, cette kyrielle de nouveaux concepts donc, couvre assez bien l'ensemble des domaines du bien-être de notre vie quotidienne. Donc, je vais en faire un rapide aperçu, en commençant d'abord par ce qui concerne notre activité physique, le fait d'être bien dans notre corps, ce qu'on pourrait appeler aussi le fitness, où là, on a assisté à une explosion des applications depuis quelques années. Ça faisait peut-être une bonne dizaine d'années que les sportifs professionnels de haut niveau, les tennismen, les golfeurs, et autres utilisaient des capteurs ou des systèmes de capture d'image pour améliorer leur performance. Eh bien, grande nouvelle, ces systèmes se sont démocratisés et maintenant on peut les porter à chacun, ils sont abordables, à la ceinture, sous forme de bracelet, voire sous forme de bijoux qui commencent à apparaître pour mesurer son activité physique, soit modérée, simplement le fait de marcher ou le fait de bouger de manière plus intense, avec une petite jauge pour certains. Et atteindre l'objectif, par exemple, des 10 000 pas par jour qui est recommandé par les professionnels de santé. Pour aller plus loin maintenant, donc, les applications mobiles sur smartphone se proposent même de jouer un rôle d'entraîneur pour vous accompagner à reprendre le sport éventuellement ou atteindre un objectif de forme physique. Alors, il y a plus de savoir technique que ce qu'on pourrait imaginer puisque, par exemple, tout le rythme des musiques sur fond desquelles donc, on trouve les consignes sportives, ces rythmes sont calculés pour s'adapter à la fréquence cardiaque que vous devez avoir pendant votre période d'échauffement, pendant vos accélérations, etc. Et en fait, cette technicité, elle peut servir également dans le domaine de la santé. Là, c'est le ministère de la Santé britannique, le National Health Services, qui a mis en place un système de coaching audio qu'on peut télécharger sur son lecteur MP3, sur son téléphone mobile, pour remettre au sport donc des personnes qui avaient perdu toute habitude d'activité physique. Et donc, ce programme du canapé au kilomètre 5 permet à n'importe qui, en 9 semaines, d'être capable de courir 30 minutes, 5 km sans interruption. Eh bien, ce programme-là, qui a été lancé donc fin 2010, il a connu un succès phénoménal, puisque en moins de 18 mois, il a atteint 5 millions de téléchargements et d'autres déclinaisons. Et il y a une communauté en ligne de toutes les personnes qui s'encouragent et qui se donnent des trucs pour réussir à se remettre en santé. Sachant qu'un des risques, c'est de vouloir reprendre le sport quand on a perdu l'habitude. Il faut savoir qu'en France, on a entre 800 et 1000 personnes qui meurent chaque année d'accidents cardiaques pour avoir voulu reprendre le sport dans de mauvaises conditions. Alors on peut aller plus loin que vouloir se remettre en activité physique et dépasser ses limites. Mais dépasser ses limites par le biais de la rivalité, de la compétition, c'est ce que proposent ces systèmes qui vous permettent de faire du vélo en ligne, du vélo elliptique donc pour faire du ski de fond, de la course sur votre tapis à domicile, voire d'autres sports plus exotiques. Mais alors là, ce sont des compétitions un peu simples, mais imaginez si on recréait le Tour de France. Donc là, vous avez des courses virtuelles avec plusieurs dizaines de personnes en équipe avec des statistiques en temps réel. Donc, on peut imaginer que l'équipe de la comptabilité à la Lyonnaise des Eaux se retrouve en compétition avec celle des ressources humaines, je ne sais pas. Mais ça ouvre des perspectives qui peuvent être assez étonnantes. Je passe rapidement. Et j'aborde la question de l'humeur, et de l'humeur positive, pour laquelle d'ailleurs on n'est pas très fort à ce qui paraît, nous Français, puisqu'on serait un des peuples les plus pessimistes de la Terre. Voilà une application qui n'a l'air de rien, mais qui a été en fait développée à partir de personnes souffrant de troubles bipolaires. Vous savez, des personnes qui ont des périodes d'excitation extrêmement intenses, pouvant mener à la mort par épuisement, et puis en alternance avec des phases de dépression. Ce petit outil que vous pouvez avoir sur votre mobile ou sur votre ordinateur vous sollicite régulièrement pour savoir dans quelle humeur vous êtes. Éventuellement, vous permet de prendre une photo de l'endroit pour savoir quels sont les stimuli auxquels vous êtes exposé, si vous avez pris des cafés, des médicaments, etc. Et tout cela vous permet d'avoir un suivi de votre humeur qui ensuite va vous permettre de prendre du recul par rapport à ces différentes variations ou d'identifier des patterns. Là, par exemple, on voit que le lundi après-midi, en fait, en gros, on a une petite baisse de morale, donc réussir à mieux se connaître et se distancier par rapport à ses émotions. Alors, on peut le faire aussi d'une autre manière, parce que des expériences ont montré que quand on notait ses bons souvenirs et quand on faisait preuve de gratitude, en fait, le bien-être psychologique avait tendance à s'améliorer, se stabiliser. Donc là, un petit journal intime dans lequel vous notez tout ce qui s'est passé de sympathique pendant votre journée. Éventuellement, vous prenez une photo de votre garçon avec qui vous avez pu vous amuser, etc. Et vous créez comme ça une sorte d'hygiène de vie psychique qui vous permet de garder cette réserve de bons souvenirs et peut-être d'être moins réactif face aux contrariétés qui ne manquent pas de se produire à chacun des jours de notre existence. Et enfin, juste un petit aperçu avant de revenir sur les questions de stress, lapsus révélateur, de bien-être au travail. Donc, un premier aperçu de ce que peuvent apporter les technologies en termes de bien-être. Alors, le télétravail, on en parle souvent, c'est pas seulement une amélioration de la qualité de vie, car le fait de travailler chez soi, dans un endroit calme ou en contact avec ses proches, mais c'est également un enjeu de santé, parce que les transports sont source de pathologies, pas seulement d'accidents, mais également d'hypertension, d'obésité, dans la problématique de la sédentarité qui commence à être de plus en plus visible. Autre souci dans la vie quotidienne en open space, le fait d'être soumis aux conversations, au bruit incessant, bien là vous avez des petits outils qui vous permettent de créer une sorte de bulle sonore en émettant un bruit rose ou un bruit blanc qui va brouiller en fait les conversations de vos collègues ou éventuellement éviter qu'ils écoutent ce que vous êtes en train de dire parce qu'à un moment vous avez dû passer un coup de fil personnel. Des entreprises américaines ont mis en place des diffuseurs de bruit rose ou de bruit blanc de cette manière-là, mais vous pouvez avoir sur votre ordinateur, votre portable, ces petits outils. Sur la question de la sédentarité, il faut savoir que rester assis tue. Donc il ne faut pas que vous gardiez cette position assise trop longtemps. Et puis surtout au travail, si vous la gardez pendant 5 heures, 7 heures, 8 heures, il y a des impacts sur la santé qui ne sont pas compensés par la pratique, par exemple, d'un jogging hebdomadaire. Il y a pas mal d'études très inquiétantes qui sont apparus aux États-Unis sur ce sujet, et ça va venir en Europe, bien évidemment. Donc là, c'est des petits pense-bêtes, tout simplement, qui vous rappellent de vous lever donc toutes les demi-heures, toutes les 45 minutes, quels étirements faire, quels mouvements faire pour éviter de limiter les troubles musculo-squelettiques que vous auriez, le trouble du canal carpien à force de manipuler votre souris si jamais vous êtes un col blanc, et puis de limiter éventuellement les problèmes de dos par une posture qui n'est pas adaptée. Un rapide aperçu de ce qu'on peut avoir comme application, mais il y en aurait pour mieux vieillir, la parentalité, etc. Alors, est-ce que ce sont vraiment des gadgets ? En fait, il faut savoir que toutes ces petites applis ou dispositifs s'appuient sur des principes scientifiquement établis sur la capacité à modifier le comportement des individus. Et en fait, ces applications-là sont conçues pour nous aider à faciliter notre changement. Parce qu'on sait tous qu'on devrait tous mieux manger, mieux bouger, mais on a du mal à le faire. Alors, ces leviers-là, on peut les catégoriser dans trois grands secteurs. Alors, elles modifient nos comportements. Tout simplement, par exemple, en termes de déclencheur, des études ont montré que si vous recevez aux heures des repas un SMS pour vous inciter à faire attention, à manger léger, etc., pour vous rappeler simplement que vous faites un régime, vous allez perdre 3,5 fois plus de poids que si vous n'aviez pas cette stimulation-là et simplement l'intention de faire un régime. Également, nous avons besoin de savoir quelle est notre activité physique. Ce n'est pas forcément simple et on ne va pas compter tous nos pas. Eh bien, tout simplement, ces outils-là nous permettent de savoir où on en est. Et en fait, mécaniquement, en fait, les gens bougent plus, descendent d'une station de bus avant. Et au-delà de l'appareil, le fait d'être en relation, être sur un réseau social ou une communauté virtuelle par rapport à une résolution de marcher plus, permet de poursuivre cet effort-là dans la durée. Car avoir des habitudes de vie saines, c'est un impact en termes de santé, c'est pas pendant un an, deux ans, c'est pendant des dizaines d'années. Donc cette question de la durée dans les comportements sains est un vrai sujet. Ces technologies sont capables aussi d'améliorer notre niveau d'engagement. Alors certains vont pousser des cris d'horreur, mais voici une initiative tout à fait intéressante développée par des universitaires américains qui s'appelle STIC, où en fait vous mettez en ligne votre engagement. Alors, chacun de nous a souvent eu l'idée de vouloir prendre une bonne révolution en début d'année. Il faut savoir qu'à 6 mois, en fait, il y a seulement 4% des personnes qui réussissent à garder leur résolution au-delà du 30 juin. Eh bien, si vous postez votre résolution sur un site internet ou sur Facebook, etc., bien, en fait, ça a un effet quand même. On passe à 20%, 1 sur 5. Si jamais vous nommez quelqu'un qui va se porter garant du fait que, par exemple, vous avez complètement arrêté de fumer, eh bien là, il y a une dynamique d'engagement qui est renforcée. Et donc, on passe à 1 chance sur 2, ce qui est quand même pas mal. Et si en plus, vous mettez de l'argent en disant « si je fume une cigarette le 25 juin, eh bien, je verse 100 €, 200 €, 1 000 € à la Croix-Rouge, une association caritative, voire pire, je verse cet argent à un parti politique que j'aborde particulièrement », eh bien, vous avez quasiment 2 chances sur 3. Donc, ça veut dire que vous avez à peu près multiplié par 15 votre capacité à tenir vos engagements. Et donc, c'est des effets réels sur le comportement. Donc, il y a d'autres effets, le fait de tenir, de garder une trace de ce qu'on a fait. Donc, le journal de gratitude, on en a parlé, le journal alimentaire. Pourquoi est-ce que ça marche ? Eh bien, parce qu'en fait, nous ne prenons pas tant de décisions que cela. Si on demande aux personnes combien de décisions elles prennent concernant leur alimentation dans la journée, généralement, personne ne répond, une quinzaine. Si on suit une personne avec une caméra sur l'épaule pendant toute la journée et on regarde le nombre de fois où elle prend une décision ou non, c'est-à-dire prendre la nourriture, ne pas la prendre, la repousser, etc., on s'aperçoit que c'est plus de 200. En fait, il se trouve qu'une grande partie de nos comportements, et notamment les comportements alimentaires, sont réalisés en pilote automatique. Parce que c'est plus simple et parce qu'on pense à beaucoup d'autres choses et puis parce qu'il y a des automatismes. Parce qu'une fois qu'on a pris une cacahuète, généralement, si le pot est à portée, on en prend une deuxième, on en prend une troisième, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Eh bien, ces technologies, par le fait de nous observer, de nous renvoyer aussi nos décisions et autres, elles nous permettent de reprendre conscience de ces actes automatiques et, d'une certaine manière, de reprendre la main sur nos comportements. Alors, on a aussi des leviers sociaux en plus des leviers comportementaux ou cognitifs. Donc des leviers sociaux avec des communautés de soutien, par exemple entre malades, patients like me, entre femmes qui par exemple ont vécu une hystérectomie, ce site comme Easter Sisters, qui permet aux femmes de partager entre elles et de se donner des conseils sur comment vivre au quotidien, améliorer leur qualité de vie. Des réseaux d'entraide dans les universités américaines, scandinaves, asiatiques, entre étudiants pour détecter ceux qui vont mal, sachant qu'en fait, un étudiant sur deux traverse un épisode dépressif pendant sa scolarité en université anglo-saxonne. Et puis, au-delà de l'effet d'encouragement, il y a l'effet de contrainte sociale également, de pression sociale. Donc ça, c'est ce système dans lequel vous photographiez chacun des aliments que vous alliez déguster. Et automatiquement, cette photo est mise en ligne et soit votre groupe d'amis, soit l'ensemble de la communauté Internet va pouvoir dire si ce que vous allez manger est vraiment en ligne avec l'engagement ou la résolution que vous avez prise. Et c'est quand même relativement efficace. Ça peut sembler terrible, mais à la limite, si jamais vous avez vraiment besoin de maigrir et que c'est une question de santé qui devient vitale pour vous, eh bien ça peut être une aide qui est peut-être bonne à prendre. À vous de juger. Alors, je vais en parler rapidement aussi. Ces technologies, elles nous permettent de simplifier aussi nos comportements, de simplifier la possibilité d'adopter, de nous comporter comme on le souhaiterait. Et c'est important pour la qualité de vie parce que certaines études ont montré que si jamais on prenait un groupe de personnes qui étaient assez tendues, on divisait en deux la première partie, on leur apprenait des techniques de relaxation, de respiration, de se détendre. Et l'autre partie du groupe, l'autre moitié, on leur apprenait à mieux s'organiser dans les contraintes du quotidien, au travail, dans la vie familiale. Eh bien, au bout de 3 mois, le groupe qui avait appris à s'organiser était moins stressé, avait des taux d'hormones de stress, de cortisone, moins élevés que ceux qui avaient appris à se relaxer de manière zen. Donc, dans la qualité de vie, ces capacités d'organisation sont quand même tout à fait intéressantes. Et là, dans le domaine personnel ou dans le domaine de l'entreprise, les technologies ont montré leur savoir-faire. Donc, vous avez vu rapidement qu'on a une multitude de leviers et en fait, toutes ces technologies permettent de les mobiliser de manière plus ou moins complète, ces leviers sociaux, que ce soit par le soutien, le contrôle, la rivalité qui est stimulante, les leviers cognitifs, les leviers comportementaux déclencheurs d'engagement, et puis des leviers d'organisation. On a une combinatoire qui est extrêmement riche, voire quasiment infinie, et c'est pour cela que ce marché-là permet d'avoir une multitude d'applications tout à fait passionnantes.
Alors on en vient au cœur du sujet. Finalement, un nouveau créneau, la remise en forme des salariés. Non mais tout ce qu'on a vu avant est évidemment très important et va nous permettre d'aller beaucoup plus vite sur cette partie salariée parce qu'en fait, on va y retrouver plein de choses. Alors la première chose, c'est un suivi de la santé de l'employé. On a plein de dispositifs, je vais vous en montrer que quelques-uns. Par exemple ici, c'est un dispositif qui marche sur smartphone. Vous prenez en photo la personne. Alors c'est pour les professionnels, donc c'est assez cher, c'est pas 75 centimes d'euros, hein. C'est plusieurs euros. Et en fait ça sert à diagnostiquer les problèmes de posture et surtout à expliquer aux patients, voilà, quand on voit comment vous tenez, c'est évident que vous avez mal au dos, et notamment à l'épaule droite, etc., ça se voit. Donc il faudrait corriger de telle ou telle manière. Ici, vous avez, grâce aux nanotechnologies, un petit senseur qui vous permet d'identifier à 3 degrés près si vous êtes en dehors de la plage de bonne posture. Si vous êtes en dehors de cette plage plus d'une minute, eh bien, ça se met à vibrer. Alors, si vous étiez en train de relâcher votre chaussure, c'est normal. Donc, vous pouvez appuyer calmement sur ce petit médaillon, il va s'arrêter de vibrer. Si vous pensiez être dans une posture normale, ça vous rappelle que non, ce n'était pas tout à fait la réalité. Alors il y en a plein sur le stress, sur la rapidité à retrouver le stress, etc. Enfin, il y a plein de choses, c'était juste un petit exemple. Il y a un phénomène aux États-Unis qui se développe de manière incroyable, c'est les challenges de bien-être au travail. Alors c'est des choses qui existent depuis très longtemps au Japon, c'est même obligatoire, on doit faire quelques exercices le matin. Mais aux États-Unis, il y avait ça aussi, mais en moyenne, les programmes rassemblaient 7% des salariés. Bon, avec ça, c'est difficile d'avoir une vraie politique de santé ou de bien-être. Ce qui est très intéressant avec le numérique, c'est que donc il y a plus d'une douzaine de plateformes qui sont de plus en plus importantes et qui vous proposent de vous engager à travers des choses un peu ludiques, à travers des vrais. Ça, c'est une émanation de l'université médicale de Harvard. Donc, il y a une plateforme sur deux à des cautions scientifiques. C'est très ludique. On vous distribue des bons points, voire des récompenses, voire des remises, voire tout un tas de choses pour vous engager. Le résultat, c'est que 50% des salariés s'engagent dans ces challenges et où effectivement on a est-ce que la DRH ce mois-ci va réussir, les équipes de la DRH vont réussir à manger plus de fois 5 fruits et légumes par jour que les gens de la DAF. Bon, alors c'est très anglo-saxon, je vous vois sourire, etc. On va en reparler peut-être dans le débat, mais en tout cas, c'est quelque chose d'important. certaines mutuelles de frais, enfin l'équivalent de mutuelles, enfin des assurances privées, pardon, là-bas, de remboursement de frais de santé vont jusqu'à effectuer des remises si les collaborateurs s'engagent effectivement et qu'on peut le démontrer. Donc, par exemple, est-ce qu'ils s'engagent à porter un podomètre et est-ce qu'ils font effectivement plus de 10 000 pas par jour ? Alors ça, c'est une autre plateforme qui fait la même chose, mais qui va un peu plus loin et qui ressemble un peu plus à notre idée du bonheur. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement manger 5 fruits et légumes par jour, ce n'est pas seulement faire 10 000 pas par jour. Après un diagnostic personnel sur ce qu'il faudrait le plus améliorer chez vous, est-ce que c'est la forme physique, être bien dans sa tête, est-ce que bien dans son corps ou bien avec les autres ? Eh bien, par exemple, vous recevez un challenge chaque jour. Et là, ça pourrait être un challenge amusant, par exemple. C'est, et si vous vous comportiez comme un touriste dans votre propre ville ? Aujourd'hui, votre challenge, c'est de prendre 3 photos de votre ville. Eh bien, c'est bête, hein ? Mais ce soir, votre vie aura été un petit peu différente grâce à cette initiative numérique qui va être personnalisée, qui ne sera pas exactement mon challenge à moi, ne sera pas exactement le même que celui de Jean-Baptiste, parce qu'on n'aura pas exactement rempli les mêmes choses au départ. Alors, nous sommes au cœur du risque pour les gens qui parlent de santé. Ce sont des frais de santé potentiellement. Donc pour l'entreprise, c'est peut-être un coût. Alors évidemment, plutôt chez les anglo-saxons, mais nous y venons à grands pas. C'est aussi un coût parce que c'est de l'absentéisme. Et puis c'est aussi un coût parce qu'on parle de présentéisme. Vous savez, les gens qui sont au boulot parce qu'ils n'osent pas ne pas venir, mais bon, c'est comme s'ils n'étaient pas là. L'argument, on le connaît déjà. Vous faites semblant de me payer, moi je fais semblant de travailler. Bon. Donc tout ça, c'est un coût pour l'entreprise. Quand on cumule tout ça, ça peut vraiment représenter des sommes assez faramineuses. Donc voilà un article de la Harvard Business Review qui nous explique effectivement que jusqu'à présent, ce bien vivre en entreprise, c'était la cerise sur le gâteau, c'était pour les entreprises qui avaient les moyens, c'était des Google et compagnie, on sait tous très bien, on faisait des choses super sympas, mais les entreprises, les vraies, sérieuses, elles ne faisaient pas vraiment ce genre de choses. Eh bien, cet article nous dit que ça devient un levier stratégique important pour les entreprises et certaines études nous annoncent que c'est en gros une économie de $200 par personne par an. Alors si vous avez 10 000 personnes, vous faites l'addition, vous allez présenter ça à un comité de direction et d'un seul coup, vous allez avoir une certaine écoute, garantie sur facture. Après, derrière, les choses sont peut-être évidemment un peu plus compliquées, on s'en doute. Ce sont des actions positives, donc, vers un bien-être concret. C'est vrai que c'est un peu plus anglo-saxon, bien-être concret. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on se passe d'un prérequis qui nous ennuie beaucoup en France, c'est le prérequis de changement de l'organisation du travail ou le changement de la culture managériale. Dès que vous posez le problème en France, vous avez forcément des gens, souvent des organisations syndicales, mais pas seulement, qui vous disent « Ah, mais de toute façon, c'est la faute du management. Il faut changer le management, il faut changer sa culture et il faut changer l'organisation du travail. » Alors, pour arrêter, scotcher toutes les velléités de faire quelque chose, il n'y a rien de tel. Là, les anglo-saxons et le numérique nous entraînent dans quelque chose d'une responsabilisation personnel, un petit peu de sa santé, de son bien-être, et par effet de contagion, évidemment, on finira bien, tôt ou tard, par toucher, évidemment, à des problèmes d'organisation du travail, entre autres. Il y a quelque chose qui est encore plus mal géré jusqu'à présent, notamment par la médecine du travail qui est vraiment pas équipée pour, c'est la santé mentale au travail. Et donc là, on a un enjeu qui est encore plus important peut-être. Prévenir les dépressions, le burn-out, les addictions, c'est vraiment quelque chose d'important. Eh bien, figurez-vous que ces éléments-là peuvent peut-être nous y aider, donc ce numérique. On va prendre quelques initiatives parmi d'autres. On est obligé d'aller très très vite, donc c'est un survol. Voilà par exemple, ça c'est un site noburnout.ch, c'est un site suisse qui vous propose tout simplement d'évaluer votre niveau de risque, là où vous en êtes de votre burn-out. C'est établi sur des grilles tout à fait reconnues. Et c'est très intéressant. Parce qu'en général, les gens qui vivent le burn-out et quand ils demandent de l'aide, c'est trop tard. Ils sont dedans et dedans depuis déjà bien trop longtemps. Donc, avoir par le numérique une possibilité non ostracisante de s'identifier, de voir un petit peu où on en est, ça peut être très important. Figurez-vous que lire, ça guérit. Ça s'appelle la bibliothérapie. C'est documenté dans les pays anglo-saxons depuis très longtemps. On ne l'utilise toujours pas ici. Et puis alors, si on met en place la bibliothérapie, notamment des self-help, donc des guides qui vous permettent d'identifier tel ou tel sujet, ce qu'il faudrait que je fasse pour m'en sortir, parce qu'il y a d'autres gens qui ont fait ça avant moi, et que si on fait ça, ça marche quand même beaucoup mieux statistiquement, c'est bien. Mais si c'est un bouquin, si je vais à la bibliothèque et qu'il est déjà pris, pas très simple. Donc là encore, le numérique, donc la e-bibliothérapie, permet d'avoir une diffusion large, et c'est toujours disponible, même s'il y a quelqu'un qui l'a utilisé avant vous. Et puis enfin, le lien entre le fitness... Et puis, parce que vous avez peut-être pu pensait tout à l'heure être quelque chose d'anecdotique. Et la santé mentale est importante. Là, vous voyez, cette personne, c'est un médecin. Hein, c'est une fille médecin qui, depuis sa jeunesse, souffre de périodes dépressives. Elle le sait. Bon, comme elle est médecin, elle a lu un peu de littérature scientifique et elle a appris qu'il pouvait y avoir un lien entre le sport et puis ce qu'on pense. Et bien, finalement, elle le constate elle-même. Quand elle est dans des périodes où elle court régulièrement, et bien, comme par hasard, elle a plus ou pratiquement plus ses épisodes dépressifs. Donc, ça reboucle avec ce que vous a montré Jean-Baptiste tout à l'heure. Il y a un lien très fort. Si je me fais aider pour faire plus de sport, quelque part, je me fais aussi aider pour ce que je pense. Donc, une approche prometteuse du bien-être au travail. J'espère qu'on vous a convaincu qu'il se passe vraiment quelque chose. C'est en gros l'essentiel de ce qu'on veut vous dire. Il se passe vraiment un truc énorme. Après, on peut en discuter. Évidemment que c'est le début. Évidemment qu'il y aura des plâtres à essuyer. Évidemment que tout ceci va s'améliorer. Si je veux résumer un certain nombre de pistes qui nous paraissent, nous, un petit peu intéressantes à court terme, à brève échéante dans le monde de l'entreprise, la e-bibliothérapie, ça nous paraît vraiment quelque chose qui pourrait être intéressant à creuser. Tous les penses bêtes, des alertes, attention, est-ce qu'effectivement, ça ne fait pas plus de 2 heures que je suis assis? Vous savez qu'on a ça sur les véhicules modernes maintenant, il faut faire une pause au bout de 2 heures. C'est pour notre sécurité, eh bien, pour notre bien-être, ça serait bien de se lever, de faire quelques pas, voire quelques étirements au bout de 2 heures. Ce n'est pas idiot de nous le rappeler. Les assistants pour le télétravail. Alors, on commence à multiplier les accords de télétravail. En France, ça repose toujours sur un postulat très clair, c'est le télétravailleur est volontaire. Mais est-ce que le télétravailleur est vraiment capable d'auto-diagnostiquer ses capacités à télétravailler? Et quand je dis ses capacités, c'est est-ce qu'il est capable d'évaluer ses conditions matérielles, ses conditions familiales propices ou pas? La réponse, cherchez pas, c'est plutôt non. C'est ceux qui ont vraiment intérêt au télétravail, ce sont ceux qui ont des distances importantes et des terrains. Ils ont probablement des assez mauvaises conditions derrière pour télétravailler. Donc, ça serait intéressant de les aider à diagnostiquer. Des alertes, des détecteurs pour tout ce qui est posture, on en a parlé. L'intimité augmentée, le fameux bruit rose pour essayer de rester un petit peu dans sa bulle quand on est sur ces plateaux. Je vous rappelle quand même que plus d'un travailleur sur deux travaille sur des open space. Les nouveaux outils pour le climat social, on n'a pas trop plus le temps d'en parler, mais plutôt que sur ces études qui sont très lourdes, très chères, et extrêmement biaisées, reconnaissons-le, on pourrait envoyer, enfin des entreprises le font, envoyer régulièrement des emails, est-ce que votre journée s'est bien passée? Et sinon, est-ce que c'était pour des raisons de travail ou des raisons personnelles? Si d'un seul coup vous avez dans le même service plein de noms, il faut vraiment faire quelque chose assez rapidement. Des outils d'autodiagnostic, de stress, de burn-out, on en a parlé. Et puis enfin, des coachs numériques. Jean-Baptiste en a beaucoup, beaucoup parlé. On voit bien donc énormément de choses qui sont d'ores et déjà des pistes intéressantes à creuser de notre point de vue. Une fois de plus, on n'est pas dans un discours complètement fleur bleue. On sait bien que comme on est au début, il y a plein de plâtres à essuyer. Mais on a essayé aussi de montrer que derrière cette créativité, il y avait aussi de véritables leviers scientifiquement démontrés, on a envie de dire.